est 11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue auditeurs, auditrices, si vous nous rejoignez. Et aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, on va parler d'un événement autour de la santé, des sciences, le festival qui fait du bien à ta santé. Et c'est le festival qui est, disons, propulsé par l'INSERM à une échelle nationale, mais aussi locale. Et c'est pour ça que j'ai le grand plaisir d'avoir dans ce studio plusieurs invités pour nous en parler, puisqu'il y a une exposition à voir dans ce cadre, dans le hall du bâtiment B1A au CHRU Bretonneau. Alors l'INSERM n'aura plus de secret pour vous, puisque Pierre Da Silva est ici. Bonjour Pierre Da Silva.
Bonjour.
Alors Pierre Da Silva, responsable information, communication et culture scientifique à l'INSERM Grand Ouest. À côté de vous, il y a Margot Schmitt. Bonjour.
Bonjour.
Chargée de mission transformation écologique au CHRU de Tours. Ensuite, Béatrice Saulnier. Bonjour.
Bonjour.
Chargée de mission de culture scientifique à Centre Sciences, donc qui propose cette exposition au CHRU en partenariat avec l'INSERM. Et enfin, il y a Thomas Séché. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Thomas Séché, vous êtes chercheur INSERM chargé de recherche au CEPR, le Centre d'études des pathologies respiratoires, et vous êtes ici puisque vous avez participé justement à l'un de ces panneaux, à cette exposition. Mais avant d'en parler, on va donner la parole à Pierre Da Silva, donc pour vous rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices ce qu'est l'INSERM.
Alors l'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Tout ce qu'on fait traite de santé humaine. Et notre objectif, c'est vraiment de faire des recherches sur tout ce qui va être autour de partir vraiment du laboratoire jusqu'au lit du patient. Et c'est pour ça qu'on travaille toujours en partenariat avec les universités et les CHU.
Donc l'INSERM, c'est des chercheurs dans tous les domaines ?
Dans tous les domaines qui touchent à la santé humaine.
Donc pas les pierres, par exemple ?
Voilà, pas de géologues. Mais on a aussi tout ce qui est sciences humaines et sociales avec des sociologues, des psychologues. On a énormément de sujets assez vastes avec de l'épidémiologie aussi. Et sur Tours, on a un certain nombre de laboratoires qui travaillent aussi sur différentes thématiques, dont le CEPR sur les pathologies respiratoires, par exemple, où on a aussi un laboratoire en neurosciences. On a des laboratoires qui travaillent plus sur tout ce qui va être les virus, ce qui est immunologie et cancer, nutrition aussi. Donc on a vraiment, sur les différents sites dans le Grand Ouest, on couvre quasiment toutes les thématiques que peut couvrir l'INSERM, parce que le Grand Ouest, en fait, c'est Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Ça fait 6 sites dans lesquels on a des laboratoires.
Donc là, on a bien entendu que votre zone de chalandise était quand même assez étendue, puisque c'est l'INSERM Grand Ouest. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ce fonctionnement en région ? Comment ça marche ?
Alors, l'INSERM est découpé en plusieurs délégations, et chaque délégation couvre une, deux, voire trois régions, comme pour nous. Et il y a à peu près 9 délégations en région, plus la région parisienne. Pour la communication, c'est une seule délégation, mais en fait, il y en a 3. Donc mon collègue à Paris a la chance de couvrir 3 délégations, ce qui est assez exceptionnel. Je pense qu'il couvre à peu près 50% de l'ensemble des laboratoires de l'INSERM.
Et alors vous, là, cette région Grand Ouest, est-ce que vous pouvez nous en dire plus comment ça se passe une journée de responsable information, communication, culture scientifique à l'INSERM Grand Ouest ?
Alors, je pense que tous les jours sont vraiment différents. Aujourd'hui, par exemple, je suis parti de chez moi à 7h30 et ce soir, je rentre chez moi à 23h. C'est assez exceptionnel. Mais la plupart du temps, en fait, on va gérer vraiment. Dès qu'on parle de communication, ça rentre dans le giron en fait, du service que je dirige. On fait à la fois de la communication interne, donc on va faire tout ce qui est annuaire de laboratoire, annuaire de la délégation, enfin toutes les productions assez communication interne. On organise des événements aussi pour les agents. Ça couvre aussi tout ce qui est communication institutionnelle. Quand le président, directeur général se déplace, je travaille en lien avec le délégué régional et avec les laboratoires. On prépare des fiches sur tous les laboratoires. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Et la partie que je préfère, j'avoue, c'est la culture scientifique et c'est l'organisation d'événements, c'est créer des ressources pédagogiques, travailler avec les laboratoires pour la diffusion des connaissances et des résultats de leurs recherches.
D'ailleurs, Outre ce festival In Science, dont vous allez pouvoir nous parler plus en détail, on peut souligner quand même la créativité qui est à l'œuvre à l'INSERM, parce qu'il y a plein de supports, donc autant des jeux vidéo, des quiz, enfin il y a énormément de choses. J'invite nos auditeurs à aller regarder. Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur tous ces supports? Qui les fabrique? D'où vous viennent ces idées géniales?
Alors, je ne veux pas paraître trop prétentieux, mais il y a énormément de choses qui viennent de l'INSERM Grand Ouest, donc du coup de moi. Le jeu vidéo en réalité virtuelle virale, notamment, qui a été créé en 2021. J'ai écrit le scénario et en fait j'ai travaillé avec un studio de développement pour cette partie-là, parce que bon, je ne sais pas tout faire. Mais c'est important aussi de nouer des partenariats avec les gens qui ont les compétences pour réaliser ces projets. Et par exemple aussi tout ce qui est exposition. On travaille avec beaucoup de partenaires, de centres de culture scientifique comme Centre Sciences par exemple. Et donc toutes ces productions, elles nous permettent de proposer à d'autres types de partenaires comme les bibliothèques, les médiathèques, les écoles, voilà, tous ces établissements qui peuvent avoir un intérêt à diffuser nos connaissances. Et je pense que ça, c'est assez important. Et nous, notre festival de culture scientifique In Science, il nous permet en fait de montrer toutes ces œuvres au public. Et voilà, nous, on a quatre, en Grand Ouest, on a quatre vraiment temps forts dans l'année sur nos actions de culture scientifique. C'est la semaine du cerveau au mois de mars, In Science au mois de mai-juin, la fête de la science, bien sûr, au mois d'octobre. Et le Festival international de science-fiction, Les Utopiales, au mois de novembre.
Voilà, donc Festival In Science. Est-ce que vous voulez nous en dire plus, Pierre Da Silva, sur la programmation de cet événement, donc qui est national, mais aussi local? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, écouter à Tours et alentour?
Pour le Festival In Science cette année, on est dans une dizaine de villes, mais on a énormément de productions audiovisuelles. On essaye de développer de plus en plus le côté présentiel, mais c'est vrai qu'en fait, le festival a été lancé juste après la pandémie. Donc, on était beaucoup plus axé sur tout ce qui était numérique. Et au fur et à mesure des années, on essaye de développer des partenariats pour proposer des choses en présentiel, notamment par des expositions avec, sur Tours, le CHU et Centre Sciences. Et on a aussi un événement qui s'appelle un ciné-expérience, à côté de Laval, à Saint-Berthevin. Et donc, ce sera le 20 juin. Donc on déborde sur In Science, qui est normalement du 27 mai au 9 juin. Mais c'est vrai que c'est pour fixer des dates, mais en vrai, on déborde toujours. On fait toujours pas mal d'actions en dehors de ces dates-là. On a aussi une BD, le tome 2 de la BD In Science, qui va bientôt sortir aussi. Et des portraits de chercheuses en BD également. On aime beaucoup la BD. Moi, j'adore ça, du coup, dès qu'on peut, j'en profite. Donc, pas mal de productions qui vont être publiées sur les réseaux sociaux et qui seront aussi disponibles sur les événements présentiels. Donc, normalement, si vous venez voir l'expo, peut-être que, avant le 9 juin, on mettra à disposition quelques exemplaires de la bande dessinée pour que les gens puissent en avoir aussi.
Donc là, on voit bien aussi l'intérêt de tous ces supports, c'est de vous adresser au public le plus large possible. Et donc, pour les concevoir, vous l'avez dit, vous faites appel aussi à votre réseau, donc par exemple à Centre Sciences. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ce partenariat avec Centre Sciences, qui d'ailleurs est représenté ici par Béatrice Saulnier?
Je pense que c'est très important pour nous, au niveau du territoire, de travailler avec ceux qui œuvrent vraiment au niveau local. Parce que moi, je suis basé à Nantes. Moi, j'ai pas forcément non plus la visibilité sur tout ce qui peut se passer sur Tours ou Orléans. Et c'est très important de travailler tous ces réseaux et de travailler avec les gens qui savent très bien quelles sont les attentes des publics, qu'est-ce qui va fonctionner. Parce que nous, on n'a pas forcément cette visibilité-là. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous de travailler avec la plupart des centres de culture scientifique qui couvre du coup Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Et c'est pour ça que c'est, indispensable ou évident de travailler avec Centre Sciences. Et en plus, on s'entend très bien, donc pourquoi ne pas le faire?
Tout à fait. Donc là, je me tourne justement vers Béatrice Saulnier. Donc, là, qui représente ici Centre Sciences. Alors peut-être voulez-vous nous en dire plus sur ce qu'est Centre Sciences ? C'est évident pour les gens de l'INSERM, mais peut-être pas pour nos auditeurs.
Oui, d'autant qu'on n'est pas forcément connu du grand public. Centre Sciences, c'est une association avec une petite équipe de 6 personnes. Et on s'appuie en fait sur les acteurs de culture scientifique en région Centre-Val-de-Loire pour développer des projets de culture scientifique, organiser des événements, produire des outils pédagogiques, dans l'objectif, je dirais, de partager les sciences avec le grand public. Ça, c'est l'objectif premier, de faire connaître en fait tous les projets qui sont développés sur le territoire par les organismes de recherche. Donc l'INSERM en fait partie, donc c'est un de nos partenaires parmi d'autres avec qui on travaille pour œuvrer à faire connaître la science auprès du grand public.
C'est qui alors, par exemple, les autres partenaires ?
Alors les autres partenaires, ce sont les universités et l'ensemble des organismes de recherche qui sont présents sur le territoire. Ce sont les musées avec qui on travaille, d'autres associations comme Arboré Sciences présents sur notre territoire, en tout cas en Indre-et-Loire. On a également des établissements scolaires, des bibliothèques, des communautés de communes, des communes qui souhaitent développer des projets de culture scientifique en région Centre-Val-de-Loire. Donc l'idée, c'est d'animer ce réseau d'acteurs pour qu'émergent en fait des projets de culture scientifique sur le territoire et puissent être consultés ou que puisse faire vivre ce territoire avec le grand public.
Donc comment ça marche, c'est-à-dire qu'on peut, enfin disons que une équipe de recherche peut passer commande, entre guillemets, d'un support à Centre Sciences ?
Alors passer commande, c'est un peu simpliste. Je pense que c'est un travail qui est quotidien, régulier, avec les acteurs de culture scientifique, soit à travers les événements que Centre Sciences coordonne, soit à travers les événements que les organismes de recherche initient, soit à la demande de partenariats, d'une bibliothèque, d'une commune qui veut développer un projet de culture scientifique, accueillir une exposition, faire venir un conférencier. Soit c'est parce qu'il y a un souhait comme de développer, on parlait de jeux vidéo, mais d'une mallette pédagogique, d'une exposition. Voilà, donc c'est à la fois une demande de nos partenaires et puis c'est un échange aussi avec nos partenaires financiers, parce qu'une association vit aussi grâce aux finances, voilà, que sont la région qui nous soutient énormément pour développer et faire vivre le territoire.
Une question, alors pas piège quand même, n'exagérons rien, mais quelle différence vous faites entre médiation scientifique et vulgarisation scientifique ?
Les chercheurs développent, on le verra tout à l'heure avec Thomas, mais une recherche, et nous, on essaye de rendre accessible le contenu de la recherche auprès du grand public. Voilà. C'est pas toujours évident pour des gens qui n'ont pas fait de science de pas se sentir éloignés de la science parce qu'elle est très présente au quotidien. Et c'est de savoir comment rendre accessible cette science qui est développée, la faire connaître, parce qu'on s'aperçoit que le grand public, on s'aperçoit à travers la fête de la science, n'a pas connaissance en fait de ce qui se développe. Et puis pour les chercheurs, c'est pas toujours évident. Eux, ils ont été formés pour faire de la recherche, pas forcément de la communication ou d'expliquer en fait leur recherche. Et c'est de créer aussi ce lien entre le grand public et les chercheurs, où chacun y trouve un intérêt. Et donc c'est les aider à faire de la médiation. Voilà. Et le terme vulgariser, ça c'est quand on travaille, je dirais, sur l'outil qu'on va développer, où là on va parler un petit peu de vulgarisation. Voilà.
Voilà, donc vous le disiez aussi, Patrice Saulnier, vous avez des mallettes pédagogiques, des expositions, c'est-à-dire qu'il y a des collections à Centre Sciences que vous pouvez aussi prêter, qu'on peut emprunter.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a, en plus de nos bureaux, un grand hangar avec énormément d'expositions qui va de la simple exposition panneau à des expositions plus interactives avec des outils très, très interactifs où le public peut manipuler. Donc on a à peu près une centaine d'outils pédagogiques qui vont du motion design à des vidéos qu'on peut créer, des mallettes pédagogiques, des expositions panneaux. On a énormément de ressources pédagogiques qui sont créées avec le concours des organismes de recherche notamment.
Donc là, par exemple, l'éducation nationale peut faire appel à vous pour faire quelque chose dans une classe.
Oui, tout à fait. D'autant qu'avec le pass culture, maintenant les établissements scolaires aussi ont la possibilité d'accueillir des expositions qui ont un coût financier, hein, pour certaines plus ou moins importantes. Et les établissements scolaires qui n'ont pas forcément de financement peuvent bénéficier quand même de ces outils. Donc c'est une bonne chose.
Donc venons-en au fait, disons à un cas concret sur cette exposition santé, alimentation et environnement qu'on pourra voir au CHU Bretonneau, donc dans le, rappelons-le, dans le bâtiment B1A, dans le hall. Qu'est-ce que vous voudriez nous en dire? Donc 5 kilos thématiques avec 15 contributions de chercheurs.
Oui, en fait, c'était dans la continuité d'un événement qu'on avait déjà organisé, qui était un hackathon sur cette thématique avec différents acteurs. On s'était aperçu qu'il y avait quand même énormément de laboratoires de recherche qui travaillaient sur ces trois mots-clés, santé, environnement, alimentation. Et je voulais qu'on les mette en avant à travers une exposition. Et l'idée, c'était déjà d'identifier les différents labos, de les solliciter, qu'on ait leur accord pour qu'ils présentent à travers une interview, parce qu'on avait fait appel à une journaliste qui a les interviews pour mettre en avant l'activité de recherche à travers une exposition panneau. Donc c'est pour ça qu'on avait identifié les thèmes auparavant, identifié les chercheurs qui voulaient bien participer. Et ensuite, moi, j'ai aussi travaillé sur la conception de l'exposition, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, de la rendre esthétique, plus accessible et avec une création avec le graphiste et avec un imprimeur pour qu'elle soit aussi agréable à regarder et facile aussi à monter pour les acteurs qui pourraient l'emprunter.
Alors comment vous avez agencé ces différents portraits, disons, de chercheurs sur ces panneaux? Comment vous les avez regroupés?
On a organisé des triptyques autour de la santé, de l'environnement et du coup de l'alimentation, qui sont des thèmes assez forts, notamment à l'INSERM et à INRAE, qui est présent en région Centre-Val-de-Loire. Donc, voilà.
Et sur ces panneaux, je pense qu'on peut dire aussi, hein, il me semble qu'il y a un ancrage local, c'est-à-dire que c'est des chercheurs du coin.
Uniquement. Il y en a quand même quelques-uns aussi sur Orléans, voilà. Sur les thématiques notamment agroforesterie et peuplier noir. On est plus sur des thématiques INRAE qui sont présentes sur Orléans, alors que sur Tours, c'est plus sur la santé animale.
Voilà. Là, j'insiste sur ce point-là parce que vous soulignez tout à l'heure que le grand public est friand de choses autour des sciences, mais ne se rend peut-être pas forcément compte que des chercheurs, il y en a ici à Tours.
Ça, c'est très régulier, notamment au moment de la fête de la science qui se déroule au mois d'octobre. Quand on échange un petit peu avec le grand public, ils sont très surpris de savoir qu'il y a autant de chercheurs qui travaillent sur des thématiques méconnues pour eux. Voilà. Mais comment ils peuvent le savoir s'ils ne sont pas en lien avec les chercheurs, autrement que par nos événements de culture scientifique?
C'est quoi votre support préféré, alors, dans tous ceux qu'il y a à Centre Sciences?
Les expositions interactives, je pense, voilà, où on s'aperçoit que quand les enfants peuvent manipuler, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, voilà, dès le plus jeune âge, de pouvoir manipuler la science, voilà, parce que je pense que n'importe quel chercheur vous dira que le plus important, c'est de pouvoir manipuler, voilà.
Voilà, alors justement, Béatrice Saulnier, vous disiez les chercheurs qui voulaient bien participer, donc on suppose qu'il n'y avait pas très envie.
Non, généralement, ils sont quand même assez intéressés dès lors qu'on les accompagne. Et je pense que c'est le travail qu'on fait aussi avec Pierre et moi à Centre Sciences, c'est ils ont besoin d'être accompagnés parce que ce n'était pas leur formation initiale de communiquer, de vulgariser pour des outils pédagogiques. Donc, dès lors qu'ils sont accompagnés, je pense que ils ont plus à cœur de participer. Et lors des événements, quand ils ont un échange avec le public et que le public est émerveillé par ce qu'ils font, je pense que ça leur envoie aussi quelque chose de positif. C'est une certaine gratitude sur leur travail. Voilà.
Alors, tous les yeux se tournent justement vers Thomas Séché, hein, qui est chercheur INSERM, qui est là et qui a participé à cette exposition.
Je partage l'avis de Béatrice totalement. Et c'est vrai qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la définition médiation-vulgarisation. C'est-à-dire qu'effectivement, dans notre formation initiale, on n'a reçu aucune. On n'a pas de compétences particulières dans ces domaines-là. Et même si on est motivé pour faire sortir en fait les résultats de notre recherche des laboratoires, on n'a pas forcément le bon langage et on n'a pas forcément les bons outils. Donc de l'intérêt en fait de partenariats soit en interne, comme avec Pierre, soit avec, avec Béatrice et des associations comme Centre Sciences, on a vraiment besoin d'avoir ces relais-là et cette aide-là pour pouvoir justement communiquer auprès du grand public de la manière la plus pertinente possible.
Alors justement, dans cette exposition-là, disons que votre partie, c'était les antibiotiques, c'est pas automatique. Alors on va faire un petit spoil. Est-ce que vous voulez nous dire ce qu'on trouve sur ce panneau ?
Eh ben, on retrouve ce slogan déjà,
voilà.
Ce qui commence à dater un peu quand même. Il a un peu plus de 20 ans. Alors, on ne travaille pas directement sur les antibiotiques dans mon équipe au sein du Centre d'études des pathologies respiratoires, mais on a abordé en fait cette thématique-là de manière un peu indirecte, parce que nous, on s'intéresse à une autre classe de médicaments qui potentiellement pourrait justement prendre un petit peu le relais des antibiotiques, parce que ce qu'on développe, en fait, le message qu'on fait passer sur ce panneau, c'est que malheureusement, ces molécules qu'on quand même révolutionner en fait la prise en charge de maladies infectieuses qui jusqu'alors n'avaient pas ou très peu de traitements, donc on situe historiquement dans les années 20, et ben malheureusement elles ont un certain nombre de problèmes à gérer, notamment le fait que les bactéries qu'elles sont censées détruire finissent en fait par trouver des mécanismes pour résister à ces molécules, et donc ces antibiotiques deviennent de moins en moins efficaces. On arrive même à des situations où on a des bactéries qui résistent à tous les antibiotiques qui sont disponibles dans notre arsenal thérapeutique. Donc nous, on a abordé en fait cette thématique de manière un peu indirecte, comme je le disais, en rappelant ce qu'est un petit peu un antibiotique, à quoi il sert, pourquoi il y a ce problème de ce qu'on appelle d'antibiorésistance, et qu'est-ce qu'on peut tenter de faire pour essayer de contourner cette problématique. Voilà un petit peu le contenu du panneau, avec une iconographie simple mais percutante. Donc on va y trouver à la fois des photos illustratives de ce qu'on peut manipuler au quotidien dans un laboratoire, et puis également une iconographie un peu plus cartoonesque représentant des bactéries qui malheureusement résistent et sont capables de boxer comme ça un peu un antibiotique et le rendre inopérant.
Alors, on suppose que vous faites partie des chercheurs plutôt contents de participer à ces événements de médiation scientifique.
Oui, totalement, oui. Ouais. Que ce soit au travers de cette exposition, où on a d'autres actions aussi de communication, au travers de notre participation à la fête de la science. On en parlait tout à l'heure en antenne avec Béatrice. Notre laboratoire ouvre ses portes au moment de la fête de la science pour faire visiter en fait le laboratoire, et puis nos étudiants en fait ont créé des ateliers un petit peu thématiques couvrant toutes les thématiques de recherche du laboratoire pour les faire partager au grand public qui vient nous rendre visite. Et puis on participe aussi des fois en direct avec Centre Sciences dans des cas très concrets où on a envie de valoriser les travaux issus de notre laboratoire. On l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, avec certains de nos étudiants, au travers de vidéos qu'on a créées sur la thématique et les résultats d'un projet de recherche, et qu'on a ensuite pu mettre en ligne sur des plateformes. Donc ouais, on est vraiment content de le faire. Ça fait partie des prérogatives des chercheurs, de communiquer aussi les résultats de notre recherche. L'idée, c'est pas que la recherche reste confinée dans le laboratoire, c'est vraiment d'essayer de partager en fait les résultats au plus grand nombre. Je pense aussi, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, pour essayer de lutter un petit peu contre la déconnexion qu'il y a désormais entre la science et puis le grand public. Donc ouais, plutôt content de participer à ce genre de projet.
Alors, par curiosité, comment ça se passe une visite au CEPR ? On imagine qu'on ne lâche pas les gens comme ça dans les labos ?
Non, on ne peut pas quand même. Effectivement, il y a quelques règles d'hygiène et de sécurité à suivre. C'est assez simple, les gens nous sollicitent pour une visite, on a des créneaux horaires qui sont prévus. On forme en fait des groupes, puisqu'on a des ateliers qui vont être en parallèle, et les gens en fait vont circuler dans le laboratoire. On a nommé des guides pour les emmener d'un point A à un point B. On regroupe tout le monde au départ pour un briefing un peu général, et puis une présentation générale de l'INSERM, du laboratoire et de tout ce qu'on y fait. Ensuite, les gens partent sur ces différents ateliers, et puis on a un temps d'échange à la fin ensemble pour répondre à des questions additionnelles. On a souvent aussi des questions sur est-ce que je peux faire un stage ici, comment. Donc c'est aussi un intérêt pour nous de pouvoir potentiellement identifier les chercheurs de demain.
Si un chercheur a envie de faire de la médiation, mais ne se sent pas forcément d'attaque, heureusement, il existe peut-être des formations. Donc là, je me tourne vers Béatrice Solnier. Je crois que vous avez une armada de formations à disposition des chercheurs ou de qui veut se former à la médiation scientifique.
Oui, ça répond un petit peu aux attentes. Et puis, c'est aussi ce qu'on a pu observer en accompagnant les chercheurs, c'est qu'ils avaient besoin d'accompagnement. On en a parlé tout à l'heure. Donc, on essaye de proposer Centre Sciences aux chercheurs et aux autres acteurs qui sont présents sur la région, des journées un peu de formation et de montée en compétences. L'année dernière, on avait proposé différents temps autour du média training avec des journalistes pour essayer de se faire comprendre, enfin que le chercheur comprenne le travail d'un journaliste et qu'il comprenne les attentes aussi et accompagner en fait les chercheurs sur comment répondre à des interviews, comment écrire d'une manière plus vulgarisée, accessible, l'écriture vulgarisée, parce que les chercheurs sont doués pour faire leur poster pour les congrès, mais quand on les sollicite pour des conférences, pour des articles, là on remarque que c'est parfois inaccessible. Je leur dis, voilà, vous utilisez des mots qu'on ne peut pas comprendre, et ça augmente en fait le fossé entre le grand public qui se dit, bah c'est pas pour moi parce que je comprends rien, quoi. Je pense que c'est aussi aux chercheurs de faire un effort justement pour rendre sa science compréhensible. Et donc cette année on propose aussi d'autres formations, comment communiquer via les réseaux sociaux pour toucher les plus jeunes, comment avoir une posture aussi suffisamment ancrée, gérée, quand on fait de l'animation auprès du grand public. C'est également savoir bien écrire, comment bien écrire, je dirais d'une manière assez simple, pour notre plateforme, notamment Écosciences. Et puis, on finit par une formation autour de l'esprit critique avec l'école de la médiation. C'est 2 jours, en fait, sur l'esprit critique. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui ont envie de faire ces formations?
Moi, je m'interroge, honnêtement. Et j'ai échangé récemment avec des... Alors là, pour le coup, des futurs chercheurs, des doctorants du laboratoire. Il y a une initiative qui avait été prise, je crois, cette année par la région, qui était justement d'inclure, en fait, dans leur formation doctorale, une journée de médiation scientifique. C'était l'école de la médiation qui leur a fait ça. C'est tout nouveau, là, c'était de cette année. Et pour avoir échangé avec eux, ils étaient particulièrement contents voilà, du contenu et de ce qu'ils en avaient retiré. Et c'est vrai que du coup, je trouvais dommage que moi, ma thèse, elle commence à dater un peu maintenant, mais on n'avait pas ce genre de formation à disposition à l'époque. Et c'est vrai que du coup, ouais, ça pourrait être particulièrement intéressant, pour être encore plus, encore plus pertinent et efficace dans les actions de médiation scientifique, je pense.
Oui, parce que je pense que c'est aussi une obligation pour les chercheurs maintenant de communiquer auprès du grand public. Encore faut-il que vous soyez formé, accompagné, pour rendre, je dirais, l'objectif réalisable pour les deux parties. Voilà.
Là, je me tourne vers Pierre Da Silva. Il me semble que, si on peut dire, vous êtes passé du côté obscur de la force, puisqu'à la base, vous êtes vous-même docteur, je crois.
Tout à fait.
Voilà, donc qu'est-ce que...
Moi, je me suis rendu compte pendant mes recherches que, en fait, je préférais diffuser les connaissances que créer de nouvelles connaissances. Et le fait d'avoir été dans les laboratoires, je pense que ça me permet d'avoir un regard un peu différent par rapport à mon métier, et d'avoir une sorte de recul qui me permet de comprendre un peu les enjeux de ce qui se passe dans les laboratoires, et de ne pas forcément toujours avoir cette idée de valoriser forcément l'INSERM en tant qu'institut, mais vraiment les recherches de l'INSERM en tant que connaissance. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est pour ça qu'en fait, je travaille très bien avec de très nombreux partenaires, et que l'objectif global est vraiment de faire participer tout le monde pour que la société puisse avoir accès à tout ça, et pas forcément le côté hyper institutionnel. Mais voilà, c'est toujours, il faut avoir gardé l'équilibre quand même. Mais c'est très important pour moi. C'est pour ça qu'on fait intervenir aussi des maîtres de conférences, des professeurs aussi, des praticiens hospitaliers. Ben voilà, on ne fait pas participer que des chercheurs INSERM ou chercheuses INSERM dans nos actions. On fait vraiment participer tout le monde, et on aime beaucoup faire des choses en partenariat. C'est très important.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une mission de service public?
Ah, complètement.
Totalement.
C'est bien, tout le monde a l'air d'accord autour de ces micros. Je pense qu'on peut faire une courte pause musicale, puis on pourra poursuivre cet échange. Alors moi, j'ai de la chance parce que j'ai plein d'indiques qui me donnent des idées de choses à diffuser dans cette émission. Donc là, je remercie Guillaume Virentin, qui est discothécaire à la bibliothèque municipale de Tours et qui m'envoie le lien qu'on va écouter. Alors, je tease la musique, il dit « J'ai découvert un album assez fascinant dans son principe et musicalement, des mises en musique d'épitaphes de tombes anciennes de Bosnie-Herzégovine. » Alors, on va pouvoir en écouter un extrait. Alors, avec mon très bon accent, cet album s'appelle « Heretical Angels ». Et voilà, je vous propose d'en écouter un extrait. C'est sur le label Outdoor Music, qui est vraiment très bien, voilà, que je vous recommande chaleureusement aussi pour vos émissions et pour toute autre chose. On se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tours 99.5 FM, qui est toujours bon de le rappeler.
И себ је исконје у Бога, и сад је мјеше, и беж него же ничто же не бје, јеже бје, том живот бје, и живот бје свјет човјеком, и живот бје тми свитице.
Guillaume Virentin, médiathécaire à la bibliothèque municipale de Tours, pour cette suggestion musicale dans La Méridienne sur Radio Campus Tours 99.5 FM. Alors, avec nos invités, nous parlons de ce festival In Science qui se tiendra partout en France et aussi à Tours en partenariat avec Centre Sciences et une exposition à voir donc dans le hall du CHRU Bretonneau, le hall du bâtiment B1A, très précisément. Alors là, je me tourne vers Margot Schmitt, parce que vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus sur c'est où le hall B1A déjà. Donc vous êtes chargée de mission transformation écologique au CHRU. Parce que pareil, aller dans l'hôpital pour voir une expo, je ne suis pas sûre que ça soit évident pour tout le monde.
Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu décalé pour les personnes qui souhaitent voir cette exposition. Pour autant, c'est intéressant puisque ça permet à énormément de personnes qui passent au sein du CHRU de voir cette expo. Donc, qui est donc au sein de l'hôpital Bretonneau, vous êtes dans le hall principal et c'est sur votre gauche et vous allez voir les panneaux qui sont disposés à la vue de tous. Et donc ça permet aux patients déjà qui viennent au sein du CHU de pouvoir s'informer sur une thématique qui quand même est une thématique de santé publique et importante qui les intéresse beaucoup. La question de l'alimentation et de la santé, on en entend de plus en plus parler dans notre quotidien. Mais ça permet également à nos agents au sein du CHRU de pouvoir s'informer et se sensibiliser à ce type de thématiques qui sont extrêmement intéressantes puisqu'il y a un vrai impact sur la santé. Effectivement, dans le cadre de mon poste qui est sur la transformation écologique, là, le lien est complet entre santé, environnement et alimentation. Donc c'est vraiment une exposition très intéressante qui est effectivement accessible à tous et à toutes. Les termes et les designs est très attractif, donc ça permet vraiment de bien se sensibiliser au sujet et d'avoir une vision assez claire finalement de ce que peut donner notre alimentation dans notre santé au quotidien. Donc c'est vraiment important et surtout les impacts également qu'il y a sur l'environnement qui sont plus ou moins connus finalement de la part du grand public. Donc c'est une exposition très intéressante que je vous encourage à aller observer.
Qui est à voir jusqu'à quand ?
Alors qui est à voir jusqu'au 10 juin.
Voilà, donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une programmation culturelle à proprement parler au CHRU de Tours ?
Oui, en fait, ça fait déjà de nombreuses années, même depuis le début des années 2000, qu'il y a une vraie programmation culturelle concrète au sein du CHU qui permet d'accueillir en fait de nombreux projets culturels à destination notamment des patients. Donc on a des vraies choses qui sont à destination de nos usagers, notamment par exemple on a des groupes de musique à l'hôpital Clocheville, donc l'hôpital pour enfants, avec l'association Blues Note, qui permet justement d'avoir une arrivée plus douce au sein du CHU pour les enfants. On a des lectures en néonatalité. Donc ça, c'est vraiment un projet qui est mené aussi avec l'Université de Tours et l'association Livre Passerelle et Lisons aux nourrissons. Donc également, en fait, ça permet de lier vraiment le côté culturel et au côté apaisement en fait, des patients au sein du secteur de santé, parce qu'on sait très bien que ça peut être très angoissant de se retrouver au sein du CHU. Et on a également aussi, par exemple, au-delà des enfants, qui sont évidemment une cible très intéressante, mais par exemple, on a aussi une danseuse chorégraphe qui vient faire danser les femmes enceintes au Centre Olympe de Gouges, donc Anne-Laure Rouxel. Voilà, on développe vraiment de nombreux projets à destination de nos usagers au maximum pour pouvoir justement déjà rendre leur arrivée au sein du CHU plus agréable, et ça nous permet également de les sensibiliser sur des sujets malgré tout de santé qui restent très intéressants.
Est-ce qu'il y a des conférences aussi auxquelles les patients pourraient avoir accès ainsi que leurs accompagnants, je pense dans ce qui était la chapelle, des choses comme ça?
Alors au sein du CHU de moins en moins, par contre on organise des ciné-débats souvent avec les studios qui permettent justement aux soignants d'aborder des thèmes vraiment précis de santé et de les rendre accessibles au grand public. Donc c'est plus des partenariats un peu plus extérieurs qui sont organisés. Après, en interne au sein du CHU, ça reste des organisations parfois un peu compliquées. Mais pourquoi pas pour les prochains mois ou prochaines années.
Justement, cette exposition Santé, Alimentation, Environnement, vous en avez souligné l'importance, mais en quoi elle fait écho à la politique RSE du CHRU de Tours ?
Alors, elle est vraiment importante parce que on a depuis en fait 2 ans une vraie stratégie qui s'est structurée autour. Alors nous, on appelle ça transformation écologique, mais c'est également RSE, développement durable. Tous les termes sont bons pour parler des mêmes projets. Donc au contraire, allons-y. Donc en fait, dans cette stratégie globale, on a un vrai axe tourné vers l'alimentation et la restauration au sein du CHU. Déjà, dans le cadre réglementaire, on est soumis à la loi Egalim, donc forcément, on est très attentif au fait de donner des produits de qualité et au maximum bio à nos agents et à nos patients. On fait également partie du label Mon Resto Responsable, qui est à destination des restaurants collectifs pour justement engager le restaurant dans une alimentation saine et durable, avec de nombreux projets qui sont soit déjà réalisés, soit en cours. Donc, notamment le développement, par exemple, de l'alimentation végétarienne, qui est quelque chose qui est de plus en plus important pour le climat, avec, par exemple, là tout récemment, des tests dans les restaurants du personnel avec des plats 100% végétariens, un questionnaire de satisfaction finale, etc. Ce sont des plats qui sont vraiment conçus et bien réfléchis également avec les diététiciennes du CHU pour s'assurer du bon apport nutritionnel pour les agents. Pour les patients, ça existe déjà depuis quelques temps, les repas végétariens, ils peuvent sélectionner cette option-là également. Mais il y a également des projets plus globaux sur la restauration avec des techniques de cuisson qui permettent d'avoir des économies d'énergie et moins de pertes au niveau de l'alimentaire, etc. Donc c'est beaucoup de projets en lien effectivement avec l'alimentation et la santé qui sont en cours. On a également d'un côté aussi social qui se construit autour de cette alimentation. En fait, notamment, par exemple, depuis quelques mois, on a à l'IFPS un réfrigérateur partagé pour les étudiants qui ont plus ou moins de moyens, on le sait bien malheureusement. Et donc, ça permet justement de pouvoir mettre les restes de repas alimentaires du midi même dans ce réfrigérateur partagé aux étudiants qui peuvent y accéder gratuitement et qui leur permet de manger quelque chose d'équilibré, de sain, et donc gratuitement aux étudiants.
Et alors, un hôpital, c'est aussi beaucoup de déchets à usage unique. Du coup, qu'est-ce qui est prévu sur la gestion des déchets au CHRU de Tours ?
Ah oui, la question des déchets, c'est vraiment un très très gros sujet. En fait, ça a été le gros travail de 2023 et aussi là, début 2024, de faire une totale refonte en fait, de nos tri des déchets au sein du CHRU. Ça a été un gros travail mené avec les équipes environnement, mais également les équipes d'hygiène pour nous assurer effectivement de bonnes filières de tri, notamment de tout ce qui est déchets dangereux et médicaux. Et donc, ça nous a permis en fait, de nous rendre compte que nous avions beaucoup de déchets qui partaient dans les... Alors, les DASRI, sont les déchets d'activité de soins à risque infectieux, qui sont typiques
des
qui sont la part des déchets les plus importants, hein, forcément, au sein d'un établissement de santé. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui partaient là-dedans, dans cette catégorie de déchets-là, qui finalement pouvaient partir dans... Alors on appelle ça les DASND, les déchets d'activité de soins non dangereux, ce qu'on peut assimiler aux ordures ménagères chez nous, et qui permettent en fait de réduire l'impact environnemental de ce tri des déchets, puisque lorsque ça part dans les DASRI, il y a une collecte beaucoup plus régulière, donc avec des transports beaucoup plus importants, et une incinération par un réseau particulier et qui, en fait, impacte beaucoup l'environnement par les produits chimiques de désinfection par la suite. Donc, au niveau du tri des déchets, on a fait cet effort-là. Il y a également de plus en plus de recyclage qui est mis en place, que ce soit papier, carton, plastique, etc. Et notamment, actuellement, un gros développement et un gros effort de mise sur la collecte des biodéchets également. Et pour l'usage unique, alors c'est une question assez complexe parce que effectivement la priorité, ça sera toujours de ne pas mettre en danger les patients. Donc il faut s'assurer d'avoir les dispositifs médicaux de manière suffisante pour assurer le soin, un soin sûr pour les patients. Et ça, c'est encore très complexe. Malgré tout, on fait beaucoup d'efforts pour voir avec nos fournisseurs pour faire en sorte d'avoir des produits qui peuvent passer à l'usage multiple et qui permettent d'être stérilisés par la suite et retournés dans le circuit. Mais ça, c'est un vrai effort collectif qui prend de nombreuses années. Donc pour l'instant, malheureusement, on est au début de cette prise de conscience de la part des établissements de santé et de leur impact environnemental. Il y a énormément de choses qui sont faites et cette partie-là est vraiment la plus compliquée puisque c'est ce qu'on appelle l'éco-conception des soins, en fait, finalement. Donc c'est toujours assurer un soin sûr pour le patient, mais avec un moindre impact environnemental. Forcément, les dispositifs médicaux en font partie. Mais il faut pouvoir avoir aussi les fournisseurs de dispositifs médicaux derrière qui puissent fournir en fait ces matériaux. Donc c'est des travaux qui sont internes et externes. Donc beaucoup de dialogue, beaucoup voilà, de recherche également sur ces sujets-là. Mais malgré tout, on arrive quand même à trouver pas mal de solutions en interne.
Je me tourne vers Thomas Séché. Comment ça se passe au CEPR, cette gestion des déchets?
On partage totalement les mêmes problématiques. Hein. On parlait de vieillissance avec tout le respect, où tout était en verre, où tout était réutilisable. Et on est passé, comme dans beaucoup d'applications de vie quotidienne, à du tout plastique, tout jetable. Donc effectivement, hein, tous nos réactifs, tous nos dispositifs, tout est en plastique avec emballage, voire sur-emballage. Donc on n'est vraiment pas du tout dans l'éco-conception de tout ce qu'on utilise au quotidien pour notre recherche. Donc je suis ravi d'avoir cet état des lieux, parce que voilà, on a mis aussi en place à peu près les mêmes stratégies. On essaye là aussi au maximum de pouvoir recycler ou en tout cas mieux étiqueter nos déchets pour éviter de tout envoyer effectivement dans ces fameuses dasseries. Dont la gestion est quand même assez coûteuse d'un point de vue environnemental. Mais là aussi, on peut faire des choses en interne, mais on est vite en fait limité par le fait que on dépend avant tout de nos fournisseurs et que là, il y a un effort à faire énorme, mais qui ne dépend pas de nous. Donc, de temps en temps, avec les relais qu'on a auprès de nos fournisseurs, on essaye de faire passer des messages autour effectivement de l'éco-conception, mais malheureusement, ça reste des grands groupes indépendants et on n'a pas non plus la main sur leurs décisions, mais ça va être un travail de longue haleine. Si déjà, en interne, on a mis en place les pratiques de tri les plus optimales, ça sera déjà super, et c'est déjà ce qu'on essaie de faire au quotidien.
Est-ce qu'il y a quelque chose, des indications qui sont données à l'échelle de l'INSERM, Pierre Da Silva, sur cette gestion des déchets dans les labos INSERM?
Alors, je pense que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, mais en tout cas, à l'INSERM, on est en train de mettre en place tout un réseau de référents sur tout ce qui est transition écologique. Et tous les agents sont en train d'être formés à ces questions-là. On a même un laboratoire qui a lancé une initiative sur le labo 1.5, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, une initiative globale pour savoir exactement ce que consomment les laboratoires en termes de missions, de déplacements. Enfin, toutes ces questions-là sont en train d'être mises sur la table, que ce soit pour vraiment avoir une recherche la plus responsable possible, que ce soit à la fois sur le côté déchets, mais aussi environnement, tous les usages en fait qu'on peut faire pour que tout soit fait le mieux possible. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place à l'INSERM.
Je pense que faire un diagnostic d'abord,
c'est ça.
Ça paraît totalement important, pour ensuite voir concrètement sur quels axes on peut vraiment jouer pour être le plus pertinent possible. Mais c'est vrai qu'on manque des fois de données, en fait, toutes simples. Ce qu'on consomme, les quantités de plastique, quelle énergie on consomme. Enfin, il y a des tas de choses à faire au préalable avant d'agir.
Oui, c'est, enfin, désolé, mais c'est vrai qu'effectivement, là, l'initiative dont vous parlez, donc c'est le labo, le CIC qui m'a contacté, effectivement, on travaille ensemble sur cette, sur ce calcul, en fait, de leur bilan carbone. Et c'est exactement aussi la démarche qu'on est en train de faire au sein du CHRU, de faire le bilan carbone de nos activités pour ensuite se rendre compte des axes prioritaires sur lesquels travailler. Après, il y a déjà eu un gros travail qui a été fourni par le Shift Project l'année dernière, qui montre en fait que le secteur de la santé est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre national. Donc c'est un beau chiffre, un beau score, et que en fait, au sein de ces 8%, ce qui émet le plus, c'est assez étonnant quand on n'est pas au cœur du sujet, mais ce sont les dispositifs médicaux et les médicaments, en fait, pour environ 50% de ces émissions. Et ça permet vraiment de montrer tout l'enjeu, effectivement, de ces usages uniques de dispositifs médicaux, mais également l'enjeu de la sobriété des pratiques, en fait. Parce qu'on se rend compte, par exemple, pour les médicaments, il y a vraiment toute cette démarche qui est là depuis quelques années de la juste prescription de médicaments, s'assurer que, voilà, de bien prescrire le nombre exact de médicaments et pas prévoir au cas où une semaine de plus pour le patient, enfin des choses comme ça qui sont faites. Également de s'assurer de la bonne gestion des stocks, tout simplement, pour éviter d'avoir les médicaments périmés et qu'on est donc obligé de jeter. Ce qui est vraiment dommage, puisque quand même actuellement en plus des tensions, donc autant faire en sorte de s'assurer de bien les utiliser. Il y a des vrais axes qui sont là-dessus, sur la question de la sobriété au sein des établissements de santé.
Et oui. Ça reboucle avec les médicaments, pour le coup.
Ça reboucle avec les médicaments.
Effectivement, si on prescrit mal, si on prescrit trop, eh ben on finit par rendre inefficaces ces molécules. Donc, ouais, c'est particulièrement ça. Intéressant. Mais aussi.
Après, si tous ces médicaments se retrouvent dans les eaux usées, après,
exactement.
Il y a un des panneaux qui traite des perturbateurs endocriniens. C'est aussi après toute la question.
Ouais. C'est la même chose pour les antibiotiques, en fait. C'est
vrai que on guérit, mais ce qu'on retrouve après.
On trouve des résidus d'antibiotiques partout désormais. Partout. Voilà. Partout, parce que prescrits massivement.
Et qui sont responsables du coup de d'autres maladies.
Et qui sont, pas forcément maladies, mais qui sont responsables de cette fameuse antibiorésistance, c'est-à-dire cette capacité des bactéries à résister, parce qu'on les retrouve, on les a prescrits en santé humaine, mais également en santé animale. Il y a des études hyper intéressantes d'incidence, de calcul d'incidence, donc de présence de ces souches résistantes dans les effluents, par exemple, des hôpitaux, dans les effluents des réseaux d'eau usée des grandes
villes. Mais pas que, il y a plein de catégories de médicaments, de pilules.
Et bien d'autres, effectivement. Mais c'est vrai que là, je trouvais que le notion antibiotique permettait de reboucler avec alimentation. On en retrouve dans l'alimentation, avec l'environnement, on en retrouve dans les eaux. Donc c'est vrai qu'on est face à des problématiques croisées, en fait, qui sont particulièrement...
D'où l'intérêt quand même que le public ait connaissance de tous ces aspects. J'ai organisé une conférence sur les perturbateurs endocriniens mardi, et avec les chercheurs de INRAE, c'était de dire aussi qu'il faut que le public s'empare en fait de ces questions-là pour changer les habitudes. On parlait du parabène, c'est parce que le public s'est emparé de cette notion de parabène qu'ils ont moins acheté, que les industriels en fait ont aussi supprimé la présence de ces parabènes dans les produits. Donc c'est comment mieux informer pour que la société et que les gens puissent s'emparer de ces questions-là et une action en fait aussi sur les questions de science.
Le changement partira du bas, je pense que vraiment, on pourra contraindre en fait, en rejoignant nos thématiques aussi, si on veut que notre fournisseur de tel dispositif se mette à véritablement éco-concevoir son produit, il va falloir que nous-mêmes on en soit convaincus et que tous ensemble on arrive face à lui en disant maintenant ça doit se faire autrement.
Oui, changer notre alimentation, exactement. Changer nos pratiques en fait au quotidien, encore faut-il être informé des enjeux.
Bon, alors, avant d'aller manger notre poulet à la dioxine, je ne résiste pas, chers invités, à vous poser la question du rôle des médias dans cette information du grand public. Quel rôle ont, à votre avis, les journalistes à jouer dans cette prise de conscience du grand public, surtout que, par les temps qui courent, on peut s'inquiéter de la disparition de certains programmes, comme Vert de Rage ou le magazine de la santé, ou encore la Terre au carré. Donc, à votre avis... quel rôle les médias ont à jouer ?
Alors, moi, je trouve que c'est essentiel que les chercheurs et les journalistes apprennent à plus travailler ensemble pour informer le grand public. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter de la suppression de certaines émissions. Donc là encore, il faut que le public puisse réagir pour changer la donne. Je ne sais pas si c'est pour des questions financières, rentabilité ou autre. Mais là, il faut effectivement que les journalistes s'emparent des questions de science pour échanger et informer le grand public.
Et je rebondis par rapport à ce que tu dis, Béatrice. Je me posais la question quant à la disparition de ces programmes qui étaient un peu institutionnels quand même. Hein. Enfin, un magazine de la science, je crois que ça fait plus de 30 ans, je crois, qu'il était diffusé. Et pour rebondir sur la notion de médiation, c'est peut-être aussi parce que finalement cet outil, c'était une émission de télévision, est-ce que c'était l'outil qu'il fallait là maintenant pour continuer en fait à capter l'attention du public? Est-ce que voilà, il ne faut pas d'autres outils de médiation scientifique?
Moi, je pense qu'il faut différents supports. Merci Mélissa d'organiser voilà. Ce type d'émissions radio. Je pense qu'il faut différents supports, que ce soit pour différents publics. Et plus on va multiplier les supports TV, vidéo, médias, journaux, plus on aura un écho important. Donc je pense que tous les formats sont intéressants. C'est à la fois la répétition et les différents publics qui n'utilisent pas forcément les mêmes médias.
Parce que par rapport aux nouveaux canaux, il y a des choses... les blogs type Sciences Étonnantes sur YouTube qui ont un succès fou et qui sont hyper pertinents, hyper bien faits. Donc c'est vrai que bon, il y a des choses qui disparaissent, mais il y a aussi des voilà, il y a aussi des belles réussites de médiation scientifique ailleurs.
Ouais, je pense qu'il y a des formats qui peuvent capter, parce qu'on peut au départ émerveiller aussi avec les sciences et d'habituer les plus jeunes dès le départ à consulter aussi ces médias. Mmh. C'est parce qu'on a été sensibilisé à un moment donné, soit en milieu scolaire, soit au cours d'une manifestation grand public, qu'ensuite on va prendre l'habitude aussi d'aller s'informer, d'aller chercher l'information. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important de multiplier les formats en fonction de l'âge aussi. Hein, voilà.
Et peut-être même, oui, se focaliser peut-être même sur les plus jeunes, en fait, finalement. Aussi pour
forcément les plus jeunes.
La culturation scientifique.
Oui, tout à fait. On travaille aussi avec les scolaires toute l'année. Et c'est des... La plus grande difficulté, je crois, c'est d'aller chercher le public là où il ne va pas forcément chercher de l'information scientifique. C'est comment arriver à les capter dès le départ, à les faire adhérer, je dirais, à l'intérêt de se documenter sur les sciences.
Après, nous, c'est pour ça qu'on multiplie aussi les supports qu'on peut faire en fonction des publics et des attentes. Nous, le festival de science-fiction, Les Utopiales, c'est un bon moyen de rencontrer un public qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser. Et c'est là où, nous, en général, on teste nos créations pour voir si ça fonctionne, s'il y a des ajustements à faire. Et c'est d'ailleurs là, en fait, où j'ai eu l'idée de créer un jeu en réalité virtuelle. Parce que j'ai vu qu'en fait, c'était une grosse attente du public. Et c'est quelque chose qui n'avait pas encore été fait dans les établissements de recherche. Donc, je me suis dit, bon, l'INSERM, pourquoi pas, on peut être les premiers à le faire. Et bon, ça a été assez long à mettre en place. Mais c'est pareil, c'est pour ça qu'aussi on s'empare des réseaux sociaux comme Instagram. On essaye de proposer des formats BD qui fonctionnent vraiment très très bien auprès des jeunes. Et j'aime beaucoup ce support-là parce qu'en fait ça reste un support papier aussi. Donc ça permet de lire, mais ça peut être aussi diffusé au format numérique. Donc on touche vraiment différentes personnes et différents publics. Et ça peut, bah nous, on essaye aussi de le faire d'un point de vue humoristique. Donc, en fait, on va toucher un public qui serait plutôt du lycéen, jeune. Donc, ça fonctionne vraiment très, très bien. Et je suis assez d'accord aussi que j'ai l'impression qu'il y a toute une communication autour des écrans et de la télé qui commence à être assez forte d'un point de vue aussi du gouvernement. Et je me demande si ça joue pas aussi sur le fait que des émissions de télé, si on est dans un mood où on veut éviter que les jeunes aillent vers les écrans, on va peut-être pas privilégier des émissions télé, mais peut-être se rediriger vers des émissions de radio.
Petite anecdote personnelle, il y a très peu de temps, le collège de mon fils nous a sollicité pour faire un carrefour des métiers. Et en fait, j'ai pu pendant toute une après-midi aller présenter le métier de chercheur et puis plus globalement parler de science en fait à des collégiens de 5e. Les quatrièmes, bah, c'était formidable en fait. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que On parlait de culture aussi, de culture scientifique. Je pense que c'est vraiment important qu'elle vienne le plus tôt possible, en fait, dans le parcours, en fait, scolaire de nos enfants. Parce qu'une fois qu'on leur a donné ce goût-là, je pense que, voilà, aller chercher l'information auprès des gens les plus pertinents, je pense qu'ils l'auront. Et voilà, éviteront les biais qu'on peut connaître au travers du mésusage des réseaux ou ce genre de choses.
Et après, je ne sais pas si les journalistes savent qu'il y a des responsables communication INSERM en région. Parce que je pense que moi, j'ai énormément d'échanges avec des journalistes qui me disent « On a essayé de contacter plein de labos, ils ne nous répondaient pas. Finalement, on a trouvé votre contact. Et en fait, en passant par moi, le contact se fait hyper vite et je trouve la personne adéquate. »
Quand je parlais d'animation de réseau, c'est se faire rencontrer des gens où je sais que ça va déboucher sur un projet. Et clairement, c'est difficile de se faire rencontrer des personnes. Voilà. Je crois que ça, c'est la plus grande satisfaction à avoir. Mais il faut avoir cette appétence pour se dire, mais tiens, il y a des super personnes, comment les faire rencontrer pour qu'il y ait quelque chose qui aboutisse. Voilà.
Et vous, Margot Schmitt, quel rôle pour les médias?
Évidemment, je trouve que le rôle est essentiel pour les médias pour diffuser la culture scientifique. Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'angle très transformation écologique, changement climatique, etc. On voit effectivement de plus en plus de programmes annulés, malheureusement, sur ces thématiques. Et aussi de plus en plus de prises de parole de climato-sceptiques qui inquiètent un peu, j'imagine, la communauté scientifique autant que les personnes intéressées par le sujet. Je pense qu'il y a vraiment aussi un rôle de la part des modérateurs pour faire passer les bons messages et s'assurer de la véracité des données scientifiques qui sont données au sein des médias, puisqu'on voit de plus en plus de choses erronées, en fait, dans les médias, en tout cas sur ce sujet de changement climatique, hein, qui est un peu mon domaine. Et l'inquiétude, elle est plutôt là, en tout cas, de mon côté. Et pour moi, c'est là aussi que les médias ont un gros rôle à jouer, à faire attention à quel message ils font passer finalement au grand public. Et après, c'est vrai que autant multiplier tous les supports pour moi, hein, vraiment, comme ça, on est sûr d'avoir le plus de personnes possibles sensibilisées. Au contraire, c'est le plus important. Effectivement, les plus jeunes, mais pas que. C'est vrai qu'on parle beaucoup du jeune public, mais il ne faut pas oublier de responsabiliser aussi les adultes, les plus grands, qui sont tout aussi responsables des situations qui actuelles. Et tout le monde est concerné et il faut bien s'assurer de toucher tout le monde sur ces questions-là. Mais je ne doute pas que vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet.
Bon, on se retrouvera tous à la formation TikTok de Centre Sciences, alors.
Voilà.
Et pour terminer cette émission, j'aimerais bien donner la parole à votre voisine Margot Schmitt, qui est là depuis le début, donc qui est votre étudiante. Je pense que si on tourne le micro, on va pouvoir l'entendre aussi. Radio Campus Oblige. Voilà, on va dire bonjour à votre stagiaire. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez vous présenter et nous expliquer quel bon vent vous amène dans cette émission?
Alors, moi, je suis en deuxième année de licence de sciences politiques à Rennes. Donc, je suis avec Margot pendant 2 semaines pour effectuer un stage dans le cadre, du coup, de mon second semestre. Et donc, évidemment, la transformation écologique chez les jeunes, elle inquiète et elle préoccupe. C'est quelque chose qui est l'avenir, selon nous. Et donc, évidemment, en faire son métier un jour pour aider à changer nos pratiques quotidiennes, c'est évident que c'est super intéressant. Et donc, avec Margot, oui, là, on passe beaucoup de temps à m'expliquer comment faire et quel processus avoir. Et c'est vraiment très intéressant.
Eh bien, merci. Donc, pour terminer cette émission, on va pouvoir proposer à nos auditeurs et auditrices des ressources en ligne à lire, à voir, à écouter. Est-ce que justement, vous avez peut-être une idée de podcast ou de compte Instagram ou autre que vous trouvez intéressant, que vous aimeriez recommander à nos auditeurs?
Alors, les podcasts, j'en écoute pas énormément. Mais alors, des comptes Instagram, on a plus. Mais moi, j'aime bien des comptes comme Camille et Justine, qui sont deux féministes et écolos assez engagées. Voilà.
Camille et Justine, pour vous, et Tatia da Silva va y aller de sa recommandation aussi.
Moi, je suis obligé de dire la boîte à gants.
Oui.
C'est le compte que je gère pour l'INSERM, c'est un compte de vulgarisation scientifique. Il n'est pas hyper actif en ce moment, mais il va reprendre un peu d'activité avec InScience, avec toutes les vidéos. Et pour les podcasts, on a les podcasts Carnet d'IGÉ aussi, qui vont sortir pour InScience, qui sont des podcasts narratifs super intéressants avec des chercheurs, des chercheuses du Grand Ouest et de l'Île-de-France.
Qu'est-ce que vous nous recommandez, Margot Schmitt ?
Bon, alors un podcast La Terre au carré, mais malheureusement, il n'y aura plus. Sinon, pour les réseaux sociaux, il y a également le compte Le Bon Pote, qui est vraiment, pour le coup, un vulgarisateur scientifique qui fait appel à beaucoup de chercheurs sur les questions de changement climatique qui sont très larges et qui permet de bien se sensibiliser et surtout de bien comprendre la complexité de tous les sujets qui existent sur ces questions de changement climatique. Voilà.
Patrice Saunier.
Moi, je fais un peu de pub, mais je vais parler de la plateforme Éco-Science Centre-Val-de-Loire, qui est une plateforme collaborative où l'ensemble des acteurs de la région centre, que ce soit un chercheur, un animateur, un enseignant, partagent soit à travers un article ou à travers des ressources de culture scientifique. Donc, c'est une plateforme régionale que Centre Sciences accueille et modère. Mais voilà, si vous voulez des ressources, c'est très intéressant, avec des approches sur des sujets très variés.
Merci. Et vous, Thomas Siffé ?
Alors, moi, je suis plutôt sur YouTube. Alors, je ne sais pas comment on les appelle, si c'est des podcasts ou si je ne sais pas. Mais le premier, c'est Science Étonnante, qui est géré par un docteur en physique fondamentale qui s'appelle David Louapre, qui avait obtenu l'année dernière la médaille d'or du CNRS, justement, pour la médiation scientifique, donc qui aborde toutes les thématiques scientifiques, au-delà de la physique, hein, qui reste quand même son dada, mais il s'intéresse vraiment à toutes les thématiques scientifiques. Et puis pour les thématiques plutôt éco, aussi sur YouTube, le Green Letter Club, qui propose des vidéos dans un format qui est intéressant, c'est-à-dire des formats longs. Là, on n'en a pas parlé, mais aussi, là, je pense que notre problématique parfois dans la médiation, c'est que, et dans le temps médiatique, c'est qu'il est très court, et donc c'est difficile de faire passer des messages pertinent sur des sujets complexes dans des formats courts. Et là, c'est un format de 1 heure d'interview de spécialistes de thématiques éco. Et donc, c'est particulièrement intéressant, je trouve.
On mettra tout ça en lien de cette émission à retrouver en podcast sur notre délicieux site internet radiocampustour.com. Il me reste à vous remercier tous et toutes d'être venus dans cette émission, La Méridienne. Alors, on va reciter le nom de tous nos invités. Béatrice Saunier, chargée de mission culture scientifique à Centre Sciences. Margot Schmitt, chargée de mission transformation écologique au CHRU, et sa stagiaire, Thomas Séchier, chercheur INSERM, chargé de recherche CEPR, Centre d'études des pathologies respiratoires, et Pierre Da Silva, responsable information, communication et culture scientifique à l'INSERM Grand Ouest. Merci aussi à Jean-Michel Escoffre. Au revoir à tous.
Au revoir,
Mélissa. Au revoir, Mélissa.
Et on va se quitter en écoutant la roqueuse du désert, Asna El Becharia, voilà, qui nous a quittés récemment. Bonne journée à tous et à toutes à l'écoute de nos programmes, évidemment.